Il est 13h à Bangui et c'est l'heure de la grande édition de la mi-journée avec Emmanuel Sambolifis. Emmanuel, bonjour.
Bonjour Ursula Merveille Mevala, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, inquiétude des conducteurs de moto-taxi face à une vague de vol de leur engin par intoxication. Vous suivrez leur plainte dans un instant. Drame familial à Bayanga, un homme a agressé mortellement hier sa propre sœur. Le suspect est en garde à vue et une enquête a été ouverte. Élection en RCA, la liste électorale définitive sera publiée le 29 août prochain, selon une annonce faite hier par le ministre de l'administration du territoire, Bruno Yapande. Football, première défaite des fauves de Bazoubangui hier face aux étalons du Burkina Faso, 4-2. On y revient dans la page sport.
Le vol de moto par intoxication prend une ampleur inquiétante ces derniers temps à Bangui.
Les principales victimes sont les conducteurs de moto-taxi. Leur bureau national appelle les autorités à agir rapidement pour traquer les auteurs et sécuriser les conducteurs. Martial Steve Metsinga a rencontré quelques victimes. Voici son reportage.
J'ai été pris en course au niveau du croisement de Sika Benzvi. Le client m'a donné du jus et quelques heures après, j'ai ressenti du vertige. Lorsque j'ai perdu connaissance, il en a profité pour emporter la moto.
Voici la voix de Saint-Cyr, l'une des victimes de ces pratiques. Parti du croisement Sika Benzvi où il avait pris un client, il s'est réveillé quelques heures plus tard dans le 5e arrondissement, secouru par la population.
Je me suis réveillé quelques heures après, mais le vertige persiste. Le propriétaire de la moto était venu me prendre pour m'amener à l'hôpital. J'ai repris connaissance après 3 jours de soins.
Victime il y a 2 semaines, grâce à Dieu qui présente encore des écorchures, n'a toujours pas retrouvé toute sa stabilité mentale après son intoxication.
Mes clients m'ont pris en course. Arrivé devant une boutique, l'un d'eux m'a payé du jus. Comme on était dans les courses, il a demandé aux commerçants de m'en donner aussi. Après avoir consommé, j'ai commencé à ressentir le vertige. Arrivé à sa destination, au 92 logement, vers 19h, j'ai perdu connaissance et ils ont pris la moto.
Marcel Nzapayembi, président national des conducteurs de moto-taxi, déplore cette situation et appelle les autorités à réagir rapidement.
Moi, fermement, étant que les responsables des moto-taxi, je condamne ça. Là, c'est mauvaise manière. Comment tu peux tuer quelqu'un à cause de moto pour prendre ça et aller vendre ça à 100 000, à 150 000 pour gagner votre vie avec cet argent mal comme ça là. Je retire d'abord l'intention des autorités de nos pays. De soyez aussi très vigilants, de soyez vraiment très vigilants que ce phénomène-là doit cesser.
L'hôpital communautaire de Bangui alerte sur un chiffre alarmant de cas depuis la fin de l'année 2024. Docteur Ojina Wakanga, chef du service des urgences, s'exprime à ce sujet.
Nous recevons presque tous les jours des cas, tous les jours des victimes. Le premier cas que nous avons identifié, c'est au mois de novembre 2024. Et depuis le mois de novembre 2024, on a un pic au mois de mai 2025. C'est-à-dire on a eu 14 cas au mois de mai 2025. Or, au début, là, on n'avait que des cas sporadiques, 2 cas, 3 cas par mois. Mais pour le mois de mai 2025, on a eu quand même 14 cas. Donc, au total, depuis le mois de novembre, où le premier cas a été notifié jusqu'à ce jour, on est à 68 cas.
Ces intoxications soulèvent des inquiétudes, d'autant qu'il est pour l'instant difficile de déterminer leur effet à long terme sur les victimes. Ce phénomène qui prend de l'ampleur suscite la peur au sein de la population. Le ministère de la Sécurité publique est interpellé pour mettre fin à cette pratique qui représente une menace pour la santé publique.
Martial Steve Mbetisinga sur Radio Ndekeluka.
Et puis Emmanuel, dans la préfecture de la Sangambaïri, un homme a frappé à mort sa propre sœur hier à Bayanga à la suite d'une dispute.
Oui, Ursula, le suspect a été interpellé et se trouve actuellement en garde à vue au commissariat de police de Bayanga pour nécessité d'enquête. Le commissaire adjoint de la localité, Edouard Bokoli Mbengia, apporte des précisions sur la procédure en cours au micro de notre correspondant Didier Diakietendi.
Nous gérons cette situation. C'était avant-hier, comme ça, aux environs 23h39, que le CIU m'a appelé. Et voilà que le président de la jeunesse de Monsapula s'est présenté au niveau du commissariat aux environs de 23h. Et l'un des éléments est allé le réveiller. Et lui aussi, à son tour, il m'a appelé. Et je me suis rendu au commissariat, je l'ai trouvé. Et nous avons maintenu le poste et les éléments se sont rendus sur le lieu maintenant pour ramener le coupable en question. Et il est maintenant à notre disposition. Et il a été déjà entendu par l'enquêteur. Automatiquement, j'ai appelé le procureur. Et le procureur nous a tenu informés de l'évacuer. Nous l'auditionnons et puis rapidement, nous l'évacuons sur une route.
Après la signature de l'accord de paix entre le gouvernement et les deux factions rebelles 3R et UPC le 19 avril dernier à N'Djamena, les opérations de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement se poursuivent sur le terrain.
On en parle avec Bonaventure Ngumba Katikiru.
Les récentes opérations de désarmement se concentrent actuellement sur les localités de Maloum dans la Waka et de Kouy dans l'Ouampende. Toutefois, une question revient avec insistance chez de nombreux Centrafricains. Combien de combattants ont réellement déposé les armes? Jules Gauthier-Ngbapo, responsable de la communication à la commission DDRR, donne quelques chiffres.
Les dernières opérations en cours sont celles de Maloum et de Kouy. Plus de 400 ex-combattants ont accepté de se faire désarmer. Ça concerne majoritairement des UPC, de Ali Darassa. Un bilan à mi-parcours, au niveau de Maloum, plus de 200 combattants UPC, des anti-Baraka. Certains sont venus de loin, de Alindao, de Bombari, de Grimari, avec leurs armes de guerre. Remettre de manière générale, si on prend les deux opérations maintenant en cours, Maloum et Kouy, ça concerne les groupes armés UPC, 3R et les anti-Baraka. Parce que UPC a signé un accord avec le gouvernement centrafricain à N'Djamena. 3R aussi a signé l'accord avec le gouvernement centrafricain à N'Djamena.
Toutefois, beaucoup de Centrafricains déplorent une lenteur dans les opérations du DDRR. Jules Gauthier-Ngbapo appelle au respect de l'accord.
Je parle plutôt du respect des critères d'éligibilité. Ils ont signé un accord avec le gouvernement. Un accord de 2015, il y a un accord de 2019 et maintenant un autre de 2025. Ils sont appelés à respecter cet accord. Donc, un, appartenir à un des groupes armés signataires. Deux, déposer une arme de guerre fonctionnelle ou réparable.
Certains observateurs s'interrogent sur le silence des autorités centrafricaines concernant le volet rapatriement du processus DDRR, particulièrement en ce qui concerne les leaders étrangers de certains groupes armés. Si le désarmement, la démobilisation et la réinsertion sont souvent évoqués, le sort des combattants venus d'ailleurs reste flou.
Entre-temps, suite à la volonté de désarmement exprimée par les 120 éléments de l'UPC le 21 juillet dernier à Sido, dans l'Ouamfafa, la MINUSCA apporte des précisions.
Selon son porte-parole par intérim Joël Dolipierre, la mission a reçu une demande du gouvernement pour l'appuyer dans ce processus de désarmement. Annonce faite hier lors de la conférence de presse hebdomadaire de l'institution à Bangui. Joël Dolipierre est au micro de Hamid Tidiani.
Nous avons en effet reçu une requête du gouvernement pour l'appui des prochaines étapes du processus de désarmement, démobilisation et réintégration des ex-combattants dans ce site, mais également d'autres sites sont à l'étude. Actuellement, les équipes à la fois du gouvernement et de la MINUSCA sont en train d'en faire l'évaluation, tenant compte des besoins techniques et logistiques nécessaires. Donc effectivement, il y a eu une mission conjointe avec les autorités locales qui a été menée à Kété-Sido le 1er août. Et donc ces rencontres permettent vraiment de maintenir un dialogue permanent avec ces éléments et d'évaluer les besoins avant l'arrivée des équipes techniques de l'UEPNDDR, qui est au fait l'organisme officiel en charge, qui est le seul programme national de désarmement, puisse arriver pour procéder aux opérations de désarmement et de mobilisation à proprement parler. Donc pour l'instant, il y a une volonté, maintenant, de pouvoir procéder aux opérations en tant que telles.
Le gouvernement annonce la publication de la liste électorale définitive pour le 29 août prochain.
Cette annonce a été faite hier par le ministre de l'administration du territoire lors d'une rencontre avec les professionnels des médias à Bangui. Selon Bruno Yapande, le processus électoral avance bien malgré quelques difficultés. Il est au micro de Alexia Félix Yangbandi.
Il n'est aujourd'hui un secret pour personne que le processus électoral en cours dans notre pays, en vue des prochaines élections, est bel et bien une réalité et se poursuit sans désemparer. Parmi les électeurs validés, enrôlés en 2025, il y a 389 602 hommes et 360 287 femmes. Dans ce contexte, le gouvernement, avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers, s'engage à continuer à apporter tous les appuis nécessaires à l'Autorité nationale des élections pour la mise à disposition in fine d'une liste électorale définitive, fiable et inclusive, gage de la réussite de l'organisation des prochaines élections groupées. Sur le plan du cadre juridique, une légère retouche dans le cadre d'une démarche dérogatoire, sera apportée à certaines dispositions du code électoral.
Le journal se poursuit sur Radio Ndekiluka. Plus de 10 000 habitants de la ville de Kembe dans la Basse-Koto font face à un problème d'accès à l'eau potable.
Sur 10 forages installés dans cette localité, seulement 2 fonctionnent pour le moment. Conséquence, plusieurs personnes consomment l'eau impropre. Le Destin Saraga.
Dans l'enceinte de l'hôpital de Kembe, on retrouve une foule de personnes venues chercher de l'eau potable. Parmi elles, Delphine, une mère de famille avec un air désespéré. Elle appelle à l'aide.
L'eau de source est impropre à la consommation. C'est pourquoi on vient chercher de l'eau ici. Il faut qu'on construise des points d'eau dans notre quartier.
Fiacre Messi Ndangaondo, gérant du forage de cette formation sanitaire de Kembe.
Il n'y a que 2 forages dans notre quartier, ce qui fait que beaucoup de gens viennent ici pour s'approvisionner en eau. Ceux qui sont pressés payent le bidon à 50 francs, mais pour le tarif normal, c'est 25 francs.
Medo, un père de famille, lance un SOS à l'endroit du gouvernement et des partenaires au développement.
Ici à Kembe, sur 10 forages, c'est seulement 3 qui fonctionnent. Donc les gens ont de difficultés à trouver de l'eau. Nous demandons l'installation de plusieurs points d'eau.
La consommation de l'eau de source par certains habitants est à l'origine de nombreuses maladies hydriques. Didier Arsène Kongban-Zeregbia, infirmier laboratoire à l'hôpital de Kembe.
Nous n'avons pas de bonne eau à boire. Et les parents allaient dans la brousse pour chercher de l'eau, mais l'eau de marigot ne sont pas protégées. Et voilà ce qui est à la cause des maladies intestinales et plus paludisme qui prévaut ici à Kembe.
Après le départ de plusieurs organisations non gouvernementales de la ville de Kembe, plusieurs habitants fondent leur espoir sur la Sodeca et l'ANEA pour l'installation des forages supplémentaires. Le Destin Saraga, de retour de Kembe, Radio Ndekeluka.
Actualité africaine, en République démocratique du Congo, plus de 31 000 km² de territoires miniers ont été récupérés par l'État à l'issue d'une vaste opération d'assainissement du fichier cadastral.
C'est ce que révèle un rapport du cadastre minier transmis au ministre des Mines qui sera présenté publiquement aujourd'hui. L'objectif de cette démarche, entamée depuis plusieurs mois, est de nettoyer et sécuriser le domaine minier national pour une meilleure valorisation économique et sécuritaire.
La page sport football, la RCI a perdu hier son premier match du championnat d'Afrique des Nations CHAN face au Burkina Faso.
4-2 en faveur des étalons du Burkina Faso, même si les fauves n'ont pas démérité. Retour sur cette rencontre avec nos envoyés spéciaux à Dar es Salaam, Nathan de Saint-Stéphane Ingombe et Théoneste Punika.
C'est un match qui a tenu toutes ses promesses avec la République centrafricaine qui découvre pour la première fois cette grande compétition africaine réservée aux joueurs locaux. Bien que les fauves de Bazubongi aient subi une défaite suite à des erreurs défensives, les jeunes centrafricains ont démontré un niveau de jeu respectable, affichant une possession de 53% contre 47% face au Burkinabé. Au cours de la première partie de la rencontre, l'équipe de Sébastien Gatto s'est montrée solide avec un score d'un but partout. Cependant, la situation a tourné en faveur de leurs adversaires lors de la seconde période où ils ont concédé jusqu'à 3 buts. Le capitaine centrafricain Chérubin Bassé estime que tout est encore possible.
On s'était préparé à venir remporter ce match. Dommage qu'on l'a perdu. Nous allons tout faire pour nous rattraper dans les 3 matchs restants. Il suffit juste de corriger certaines imperfections offensives afin de marquer des buts. C'est ce qu'on fera lors des matchs suivants.
Le technicien centrafricain Sébastien Gatto reconnaît les failles de son équipe et se fixe déjà des objectifs pour les prochaines rencontres.
On a pêché par rapport à nos propres éléments. C'est arrivé. Ils ont concédé 3 buts qui n'étaient pas les leurs. Mais nous allons continuer de travailler parce qu'on a encore 3 matchs à jouer. On verra aussi ce que ça va donner pour notre équipe.
L'entraîneur des étalons du Burkina Faso, Issa Balboni, a souligné qu'il s'est confronté à une très belle équipe centrafricaine. Mais pour lui, l'objectif est de remporter ce match.
Il fallait gagner d'abord, quelle qu'en soit la manière. Il y avait un peu la pression sur nous un peu. Ce sont des jeunes, je les ai parlé. Ils ont compris que c'est une affaire de la nation. Il fallait vraiment gagner, quelle qu'en soit la manière.
Actuellement, la République centrafricaine se positionne à la dernière place du groupe B avec 0 points, tandis que la Tanzanie renforce sa position de leader en totalisant 6 points après sa courte victoire hier contre la Mauritanie. La troisième place revient à Madagascar, 1 point, et la Mauritanie est quatrième avec 1 point également. Dar es Salaam, Théoneste Punika, Nathan de Saint-Stéphane Ngombe.
Kombe, Radio Ndekeluka.
Dans l'autre match d'hier, la Tanzanie, qui est l'un des pays organisateurs, a enregistré sa deuxième victoire en deux matchs en battant la Mauritanie 1-0. Deux matchs sont prévus aujourd'hui. En ce moment, la RDC joue contre la Zambie et à 16h, l'Angola affronte le Kenya.
Voilà tout pour ce journal préparé par toute l'équipe de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés pour la version Onsango.